Il est mort, Jim, lu par l'auteur, chapitre 10, épisode 63. La science, comme l'histoire, avait cruellement démenti le spiritisme. L'astronomie et les recherches spatiales rendaient ridicule l'affirmation que l'on trouvait dans le livre des esprits. Selon les esprits, de tous les globes qui composent notre système planétaire, la Terre est un de ceux dont les habitants sont le moins avancés physiquement et moralement. Mars lui serait encore inférieur et Jupiter de beaucoup supérieur à tous égards. En ce qui concerne Mars, dans tous les cas, elle n'était pas habitée, même si les scientifiques du XXIe siècle s'accordaient à dire qu'elle avait pu l'être. Parmi les pères catholiques, qui sans idée préconçue cherchèrent à comprendre les phénomènes paranormaux, il y avait le révérend jésuite Herbert Thurston. Il étudia des dizaines de cas d'apparition de fantômes et conclut que ces manifestations étaient certainement dues à des forces naturelles inconnues que nous ignorons, au même titre que les Romains ignoraient l'électricité. Un missionnaire apostolique français, le révérend Père Jouette, fonda même à Rome, au tout début du XXe siècle, le musée des âmes du purgatoire, que l'on pouvait toujours visiter au numéro 12 du Lungo dei Veri Prati. On y trouvait principalement des traces incandescentes imprimées par des mains dans des livres ou des objets. Le révérend était parti à la recherche de témoignages d'apparitions. Il menait lui aussi une enquête. Je trouvais notamment ce récit qu'il avait rapporté. Le brave curé d'Ellingen, près de Metz, accueillit avec scepticisme en 1815 Marguerite Demerlé, venue lui confier qu'une femme qu'elle ne connaissait pas était apparue dans sa ferme et que, terrorisée, elle avait constaté qu'une grande tristesse se lisait sur le visage de l'apparition. Le prêtre confessa à Marguerite et lui donna la communion en lui recommandant de ne plus avoir peur. Rentrée chez elle, la fermière se trouva face à face avec l'inconnu, surgi d'un autre monde. Suivant les conseils de son curé, elle s'approcha de l'apparition, elle lui demanda ce qu'elle semblait chercher et pourquoi tant de douleur marquait ses traits. L'inconnu lui révéla alors qu'elle était sa propre belle-mère, morte en couche 30 ans auparavant. La défunte désirait qu'un pèlerinage, suivi de deux messes pour le repos de son âme, soit effectué au sanctuaire de Notre-Dame de Marienthal. La famille réalisa le vœu de la morte. Quelques jours plus tard, cette dernière rendit une ultime visite à sa bru pour la remercier et lui confia que Dieu l'avait maintenant appelée au ciel. L'autorité religieuse avait suivi toute l'affaire avec beaucoup de prudence et le curé d'Ellingen avait suggéré à Marguerite, au retour du pèlerinage, de demander à sa belle-mère un signe de son passage, si toutefois elle revenait. La fermière demanda donc à la revenante la preuve en question. La défunte eut un geste de tristesse, puis elle posa doucement la main sur la traduction allemande de l'Imitation de Jésus-Christ que la jeune femme était en train de lire. Ses cinq doigts marquèrent comme un stigmate de feu la double page du livre, qui figure lui aussi dans les archives du musée du 12 Lungo dei Veri Prati. Un soir, un peu plus tard, je repris ce récit devant Lisangela. Les histoires en amènent d'autres, et lui vint à la mémoire ce que lui avaient raconté ses parents. Leurs voisins, cela se passait en Californie quand Lisangela était une enfant, et décidément il ne manquait pas d'histoires de voisins, avaient racheté une ferme à quelques kilomètres de chez eux. C'était au milieu des années 60. La bâtisse était grande, rustique, mais belle. Lors d'un apéritif qu'ils prenaient avec les parents de Lisangela une belle soirée d'été, ils confièrent qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise dans la pièce principale. Effectivement, leurs convives se dirent ensuite qu'ils ne s'y étaient pas attardés lors de la visite. Une année et quelques mois plus tard, le hasard voulut qu'ils se retrouvent chez anciens voisins pour un nouvel apéritif. Il faisait froid, mais on s'installa dans la grande salle à manger. Le père de L.A. remarqua sans réfléchir qu'il trouvait la pièce accueillante. Il se rappela alors que la première fois, elle avait fait une impression différente. Il buvait, il faisait nuit, le moment était propice aux confidences ou aux histoires étranges. La femme se sentait très agitée dans cette pièce. Une nuit, alors qu'elle s'était levée, trouvant difficilement le sommeil, elle se sentit soudain saisie par l'impérieuse nécessité de se coucher sur le sol. Elle fut saisie d'un grand malaise, proche de l'écœurement, et elle eut aussitôt la sensation précise qu'il y avait un corps enfoui sous elle. Elle ne pouvait pas dire comment elle communiqua avec lui. Elle n'entendit pas de voix, mais elle sut que c'était un homme qui était mort très longtemps auparavant et qu'il voulait une sépulture. Très troublée, elle n'osa d'abord pas en parler à son conjoint, mais sa tension redoubla Elle ne put bientôt faire autrement. Ils hésitèrent longtemps, puis se décidèrent à faire un trou dans la salle à manger. Le trouble que le mari éprouvait dans le lieu n'était pas pour rien dans sa décision. À 2,50 m de profondeur, son piolet mit effectivement à jour un os, puis l'ensemble d'un squelette. Une fois qu'il eut réussi à faire cesser ses tremblements, il réfléchit à ce qu'il devait faire. En parler à la police? Le squelette paraissait très ancien et ils appartenaient à la population jeune, cultivée et libertaire. La propriété était grande. Ils fabriquaient un caisson en bois, ils l'enterrèrent dans une petite clairière peu visible. Les parents de Lisangela s'y rendirent. Il y avait une croix en bois au-dessus de la tombe. Elle heurtait les croyances de leurs amis, et ce n'était pas le meilleur moyen de se défaire discrètement du squelette, mais comment répondre différemment à la prière du mort? Effectivement, la salle à manger, une fois rebouchée, parut neutralisée et fut désormais habitable. Les parents de L.A. eux-mêmes l'avaient senti.